Il est extraordinaire de constater comme, chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. J'empaille moi-même tous mes petits chéris quand ils rendent l'âme. Voulez-vous une autre tasse de thé ?
Bonsoir.
Sur la cuisson des pâtes, ils pouvaient se montrer désagréablement pointilleux, voire impitoyables.
Oui, Mary, de toute mon âme et de tout mon cœur, je vous aime. Oh, Jack, racontez-moi plutôt une histoire.
Et cette histoire, tu la racontes ?
Ferme les yeux, ça va commencer.
Bonjour et bienvenue dans Ferme les yeux, votre émission de lecture accompagnée de musique. Aujourd'hui, le second épisode du Connaisseur de Roald Dahl.
Accepte, accepte, Louise, je te garantis que tu ne le regretteras pas. Mais ça me déplaît, papa. Bon, voyons, mon petit, accepte, puisque je te dis que tu ne risques rien.
Il était penché en avant, fixant la jeune fille de ses yeux clairs et durs. Elle eut beaucoup de mal à soutenir ce regard.
Mais si je perds ?
C'est impossible, je te le répète, je te le garantis.
Tu crois vraiment ?
Allons, il s'agit de ton avenir.
Que dis-tu, Louise ? Es-tu d'accord ?
Une dernière fois, elle hésita, puis elle eut un petit haussement d'épaule résigné et dit
« Eh bien, c'est entendu. S'il est vrai que je ne risque rien,
parfait ! Voilà qui est parfait. Nous allons pouvoir parier. »
« Oui ?»
Richard Pratt regardait la jeune fille.
« Nous allons pouvoir parier. »
Mike sortit aussitôt la bouteille de son panier. Il remplit d'abord son propre verre, puis fit nerveusement le tour de la table pour remplir les autres. À présent, tous les regards étaient posés sur Richard Pratt, qui lentement leva son verre pour l'approcher de son nez. L'homme était âgé d'une cinquantaine d'années et son visage n'avait rien de séduisant. Il était en quelque sorte mangé par une bouche. Une bouche de gourmet professionnel, aux lèvres épaisses et mouillées, des lèvres perpétuellement entrouvertes de dégustateurs, faites pour recevoir le rebord d'une coupe ou une cuillerée de bonne sauce. Une bouche en trou de serrure. C'était bien cela, un gros trou de serrure mouillée. Lentement, majestueusement, il leva sa coupe. La pointe du nez pénétra à l'intérieur du verre, et évolua au-dessus du niveau de vin en reniflant délicatement. Il fit remuer un peu le liquide pour mieux faire entrer le bouquet dans ses narines. Sa concentration était intense. Il avait fermé les yeux et toute la partie supérieure de son corps semblait transformée en une énorme machine à humer, une machine qui captait, qui filtrait, qui analysait le message du nez reniflant. Sur sa chaise, Mike avait l'air désinvolte, comme si tout cela le concernait à peine. Mais, je le savais bien, aucun geste de Pratt ne lui échappait. Madame Schofield, l'épouse, assise à l'autre bout de la table, regardait droit devant elle, le visage figé et réprobateur. Louise, aussi attentive que son père, avait un peu éloigné sa chaise pour suivre le spectacle à distance. Le processus nasal dura plus d'une minute. Puis, sans rouvrir les yeux et sans changer de posture, Pratt porta le verre à sa bouche pour y verser près de la moitié de son contenu. La bouche pleine de vin, il explora le premier goût, puis il fit couler quelques gouttes dans son gosier. Au moment où passait le liquide, je vis remuer sa pomme d'Adam, mais il avait gardé une quantité importante de vin dans la bouche. Maintenant, au lieu d'avaler le reste, il aspira une fine bouffée d'air qui devait se mêler aux fumées du vin avant de descendre dans ses poumons. Il retint sa respiration, puis fit sortir un peu d'air par le nez. Enfin, il se mit à rouler le vin autour de sa langue, puis il le mastiqua littéralement, de toutes ses dents, comme si c'était du pain. Le numéro était solennel et impressionnant, et j'en conviens, Pratt l'exécuta avec un brio incomparable. Il posa son verre tandis qu'une langue rose parcourait ses lèvres. Oui, un petit vin très intéressant. En effet, tendre, gracieux, presque féminin dans son arrière-goût. Il y avait trop de salive dans sa bouche. En parlant, il envoya discrètement un clair crachat sur la nappe. Maintenant, nous pouvons commencer à éliminer. Vous me pardonnerez certainement si je procède prudemment, par petites touches, vu le risque que je cours en me trompant. Normalement, j'avancerai peut-être sans plus attendre le nom d'un vignoble, mais ce soir, je dois prendre des précautions, n'est-ce pas ? Il tourna vers Mike un gros sourire lipu, un gros sourire mouillé. Mike, lui, ne sourit pas. Premièrement, de quel district de Bordeaux s'agit-il ? Cela n'est pas trop difficile à trouver. Ce vin est bien trop chauffant pour être un Saint-Émilion ou un Grave. C'est un Médoc, cela ne fait aucun doute. Maintenant, à quelle commune faut-il l'attribuer ? Cela non plus ne doit pas être trop difficile, si l'on procède par élimination. Un Margaux ? Non, ce n'est pas un Margaux. Il n'en a pas la violence. Un Pauillac, peut-être. Ce n'est pas non plus un Pauillac. Il est trop tendre, trop docile, trop pensif pour un Pauillac. Le caractère du Pauillac est bien plus impérieux. Le Pauillac, à mon avis, est un peu moelleux. Le sol de ce district donne à sa vigne une petite saveur moelleuse, voire poussiéreuse. Non, ce n'est pas un Pauillac. C'est un vin très aimable, un peu réservé et timide dans son premier goût, soupçonneux par instant, mais très gracieux dans le second. Un peu fripé peut-être, un rien pervers, il faut le dire. Il caresse la langue avec un soupçon, juste un soupçon de tanin. Dans son dernier goût, il est délicieusement réconfortant et féminin, joignant à toutes ses qualités cette riante générosité que l'on ne retrouve que chez un vin de Saint-Julien. Sans erreur, c'est un Saint-Julien. Il s'adossa, croisant les mains sur sa poitrine. Il devenait ridiculement pompeux, mais je me disais qu'il adoptait délibérément cette attitude pour se moquer de son hôte. Alors que j'attendais impatiemment la suite, Louise, la jeune fille, alluma une cigarette. Pratt, qui entendit craquer l'allumette, se mit soudain en colère, une colère qui n'était pas feinte. « Je vous en prie, éteignez cette cigarette. C'est une habitude dégoûtante que de fumer à table. » Elle leva sur lui ses grands yeux tranquilles et les garda posés sur lui un instant. Puis elle souffla l'allumette, mais elle continua de tenir entre ses doigts la cigarette non allumée. « Je regrette, ma chère, mais je ne tolère pas qu'on fume à table. » Elle ne le regarda plus. Maintenant, voyons un peu. Où en sommes-nous ? Ah oui, c'est un vin de Bordeaux, un Médoc, de la commune de Saint-Julien. Tout ceci est bien simple. Mais maintenant, nous en arrivons au point le plus délicat. Le nom même du vignoble.
car il y a beaucoup de vignobles à Saint-Julien, et comme notre hôte l'a remarqué si justement, il y a souvent peu de différence entre le produit d'un vignoble et celui d'un autre. C'est ce que nous allons voir. Il se tut de nouveau et ferma les yeux. J'essaie de trouver la grandeur du cru. Si j'y arrive, c'est à moitié gagné. Maintenant, voyons un peu. Ce vin n'est manifestement pas de première grandeur, ni même de seconde grandeur. La qualité, la puissance n'y est pas. C'est probablement un cru de troisième grandeur. Mais il est permis d'en douter, car il s'agit d'une bonne année, notre hôte nous l'a affirmé, et cela doit favoriser ce cru. Il faut que je sois prudent. Il faut que je sois très prudent maintenant. Il releva son verre et but une autre petite gorgée. Il se suça les lèvres. Oui, j'avais raison. C'est un cru de quatrième grandeur, d'une très bonne année, d'une grande année en effet. Et c'est cela même qui lui donne pendant un instant un goût de troisième, voire de deuxième grandeur. Bien, nous y voilà. Quels sont les vignobles de quatrième grandeur de la commune de Saint-Julien ? Une nouvelle fois, il s'interrompit pour porter son verre à la masse pendante de ses lèvres. Puis je vis apparaître sa langue qui, rose et pointue, plongea dans le vin pour se retirer aussitôt. Spectacle plutôt répugnant. Lorsqu'il reposa le verre, il garda les yeux clos, le visage concentré. Les lèvres seules remuaient, se frottant l'une contre l'autre comme deux éponges humides. Le revoilà, le tanin dans le deuxième goût, et cette pression astringente sur la langue. Oui, c'est certain, à présent j'y suis. Ce vin provient d'un des petits vignobles des environs de Béchevel. Je m'en souviens maintenant, le village de Béchevel, le fleuve et le petit port dont l'eau est si limoneuse que les cargaisons de vin n'y entrent plus. Béchevel. Ce vin est-il de Béchevel même ? Non, je ne le crois pas, pas tout à fait. Mais je ne suis pas loin. Un château Talbot peut-être. C'est possible. Voyons un peu. Il but une nouvelle gorgée. Du coin de l'œil, je vis Mike penché en avant, la bouche entrouverte, ses petits yeux clairs fixés sur Richard Pratt. Non, je me suis trompé. Ce n'est pas un Talbot. Un Talbot est plus direct, plus rapide, plus fruité. Si c'est un 34, et je crois que c'en est un, ce ne peut être un Talbot. Bon, cherchons un peu. Ce n'est ni un Béchevel, ni un Talbot. Et pourtant c'est si proche. Cela doit se trouver entre les deux. Laissez-moi chercher. Il hésita et nous attendîmes. À présent, tout le monde avait les yeux fixés sur lui, même la femme de Mike. J'entendis la bonne poser son plat de légumes sur le buffet qui se trouvait derrière moi, doucement, pour ne pas troubler le silence. Ah ! Ça y est ! Je crois que j'ai trouvé ! Il but une dernière gorgée. Puis, sans éloigner le verre de sa bouche, il se tourna vers Mike et déclara, avec un long sourire mielleux, « C'est un petit château Branner du Cru. » Mike demeura figé sur sa chaise. « Et pour l'année, c'est 1934. » Nous regardâmes tous Mike en attendant qu'il retourne la bouteille. « Est-ce là votre dernière réponse ?»« Oui, je crois. »« Oui ou non ?»« Oui. » »« Voulez-vous me répéter le nom ?»
Château Branner du Cru, joli petit vignoble, ravissant vieux château, je connais très bien. Je me demande pourquoi je n'ai pas trouvé plus vite.
Eh bien, papa, qu'est-ce que tu attends pour retourner la bouteille ? Je veux mes deux maisons.
Une minute, attendez une minute. Mike demeura assis, très calme, l'œil égaré, le visage exsangue et bouffi.
Mike ! Mon chéri ! Michael, qu'avez-vous ?
Ne vous occupez pas de cela, Margaret. Voulez-vous ?
Richard Pratt regardait toujours Mike en souriant. Mike, lui, ne regarda personne.
Papa ! Papa ! Tu ne veux pas dire qu'il a trouvé ?
Ne te tourmente pas, ma chérie. Ce n'est pas la peine. Ne croyez-vous pas, Richard, que nous ferions mieux de nous retirer tous les deux dans la pièce voisine pour discuter un peu ?
Je ne veux pas discuter. Tout ce que je demande, c'est voir l'étiquette de la bouteille.
Il savait à présent qu'il avait gagné. Il avait l'allure, l'arrogance d'un vainqueur. Et visiblement, il s'apprêtait à devenir absolument odieux dans le cas où les choses ne s'arrangeraient pas à son gré.
Attendez-vous pour retourner la bouteille ?
C'est alors qu'intervint la bonne. Droite et menue dans son uniforme noir et blanc, elle surgit à côté de Richard Pratt, tenant un petit objet dans la main.
« Je crois que c'est à vous, monsieur. »
Pratt jeta un regard furtif sur la paire de lunettes d'écaille qu'elle lui tendait. Il hésita.
« Ah, moi, peut-être, je n'en sais rien. »«
Si, monsieur, elles sont bien à vous. »
C'était une petite femme qui pouvait avoir entre 60 et 70 ans. Plutôt 70. Elle se trouvait au service de la famille depuis de longues années. Elle posa les lunettes sur la table, devant Pratt, à côté de son couvert. Sans la remercier, Pratt les glissa dans la poche de sa jaquette, derrière le mouchoir. Mais la bonne ne bougea pas. Elle demeura debout, un peu en retrait. Il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Je ressentis une sorte d'appréhension à la vue de cette petite personne sèche et figée, au regard aigu, aux lèvres pincées, au menton réprobateur. Avec son visage grisâtre, sa coiffe à mi-donnée, les mains jointes sur son tablier, elle ressemblait à un petit oiseau au ventre blanc.
Vous les aviez oubliés dans le cabinet de travail de Monsieur Schofield.
Sa voix était d'une politesse exagérée et glaciale.
En haut du placard vert, quand vous y êtes entré, avant le dîner.
Il me fallut quelques instants pour saisir le sens de ces mots. Et dans le silence qui les suivit, je vis Mike se lever lentement, je vis son visage se colorer et ses yeux s'exorbiter. Une petite blancheur menaçante apparut autour de ses narines.
« Mon chéri, du calme, s'il vous plaît. Du calme, Michael. »
Ferme les yeux, c'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez les rouvrir. Nous nous retrouvons jeudi prochain à 23h. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur cfmradio.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine.